Bonsoir tout le monde et bienvenue au 38e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Final Fantasy Mystic Quest. Le jeu, produit en Amérique, de qualité questionnable, dérivé de la série légendaire. Ça se ressemble beaucoup. On est aussi produits en Amérique et nous aussi de qualité questionnable. Bonjour, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et encore une fois, malheureusement, Jeff a dû s'absenter. Mais évidemment, quand il est absent, on a toujours un petit peu de Jeff avec nous. Where's Jeff? Is he sleeping outside? Where's Jeff? And here's your host, Anthony Wiggles.
Kalispere, Billy Boo. Hello, everybody. Welcome to Where's Jeff? And here comes our first contestant, our only contestant. He dresses like a canary, he sings like a bird, Greg Wiggles.
Qu'est-ce que c'est, tabarnak?
Ça a l'air d'être un show pour enfants british, là. J'ai googlé Where's Jeff, ça a donné ça.
Parce qu'eux aussi se demandent toujours où est Jeff.
Mais où est Jeff?
Ben, fait qu'on va y aller directement avec ce qu'on a fait cette semaine. Dan?
Mais oui! Moi, ça a été une semaine de rattrapage, si on veut, de choses que j'avais envie de faire depuis longtemps.
Fait que t'as eu ton diplôme d'études secondaires.
Oui,
félicitations.
Yeah.
T'enseignais tout ce temps-là, sans le diplôme. C'est quand même rough.
On dirait un film d'Adam Sandler, mon affaire.
Ou d'Arnold Schwarzenegger.
Ah, aussi.
On y revient.
Okay. Oui, c'est ça, on y revient. donc, j'ai suivi tes conseils, Matt, en fait, pour commencer avec deux séries. J'ai commencé Rick and Morty cette semaine.
Yes!
Fucking drôle, là. ce que j'aime particulièrement, je pense, de la série, là, c'est le fait que les épisodes semblent avoir aucun lien entre eux autres. Puis tout d'un coup, poup, un petit throwback, une petite référence.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard.
Non, non, c'est ça. Fait que non, vraiment cool. Puis j'ai aussi commencé Halt and Catch Fire.
Oh, ouais. T'es rendu où?
J'ai écouté peut-être deux épisodes. Pas okay. Tellement loin.
Fait qu'on est dans la conception d'un vieux clone de IBM.
D'un vieux clone de IBM, ouais. Fait que, ouais, tu sais, je pense que je comprends sûrement pas toutes les références puis tous les trucs comme toi, tu peux les comprendre. Mm-hmm. Mais je comprends assez d'affaires pour comprendre à quel point c'est très drôle d'avoir une grosse palette avec des petits bouts de fil puis des diodes pour aller chercher tout le contenu d'une micro-puce. Je suis comme, oh yeah.
Ah ouais, le côté où ce qui. Ben, très très tôt dans le show, le but c'est de reverse engineer, c'est-à-dire de. C'est quoi en français
La rétro-ingénierie,
oui. Oui, straight genre. Up. Ben oui, t'as raison. Bref, c'est de faire de la rétro-ingénierie pour tout comprendre le code du BIOS d'un IBM.
Oui, parce que dans le fond, il n'y a rien de propriétaire sauf le contenu de la puce. Là.
Exact. Donc, ils font par la vraie méthode, c'est-à-dire qu'ils envoient des impulsions sur toutes les adresses imaginables puis regardent le résultat qui sort. Comme ça, ils peuvent reconstituer toutes les entrées et les sorties du BIOS. Bref, c'est excessivement technique, mais ça commence sur ce ton-là. Oui,
c'est ça.
Puis, encore une fois, même si tu n'as pas compris tout ça, pourquoi qu'il le faisait, comment qu'il le faisait...
Ben non, tu sais,
non, mais ça nuit pas au show.
Pantoute. Puis, tu sais, j'ai assez fait un peu d'électronique pour quand même pouvoir suivre. Mais même en dehors de ça, tu comprends qu'ils gossent avec une machine, puis avec un ordi, puis qu'ils sortent un cartable de code. Puis,
ça te sort une pile de
Bref,
feuilles.
Non, mais c'était quand même vraiment cool. Puis le show a un bon ton là, qui va être intéressant à suivre. J'ai hâte de suivre. Sinon, encore sous tes conseils, Matt, j'ai finalement fini par écouter Goon, que j'avais pas encore écouté depuis tout ce temps-là. Donc, j'ai écouté Goon avec une de mes répliques que j'ai le plus aimé du début du film. Holy fucking shit!
Look at that face period! Est-ce que c'est le holy fucking shit ou c'est le look at that face period?
Look at that face period avec le petit gauche de sang qu'on entend dans l'audio,
ouais.
Pour ceux qui portent attention.
Dans la version française, on a le droit à un « Ah, on dirait qu'il est menstrué de la face! » Qui, à défaut de subtilité, a quand même un certain charme.
Non, mais c'est bon. Tu vois, la version française, je n'ai pas encore écouté. Je n'ai pas écouté les deux back-à-back. Il y a quand même une limite. Là. Mm-hmm. Mais c'est dans mes plans, éventuellement.
Comme ça, tu vas être bien lubrifié, hein, pour la sortie de Goon 2.
Yes. Pour une fois que je peux aller voir un film au cinéma en français.
Ouais, c'était vraiment une de mes... Des petites joies quand il est sorti, c'est comme fuck it, on va pouvoir aller au cinéma à Joliette, qu'il y a rien que les mots du film traduits tout le temps, mais ils ont une traduction tellement solide que ça va me faire plaisir.
Sinon, c'est pas ça, c'est pour le côté écran, si on veut. Je filais pas tant gaming ces dernières semaines, j'ai fait plus de la lecture. Jeff m'a transmis son. Moi, je l'appelais le IT des vins, là, une infection transmissible par des vins. Je me suis pogné Donjon Dragon 5, moi aussi, après avoir regardé un review sur YouTube d'un dude qui disait ben, qu'il avait beaucoup joué à Donjon 3, 3.5, qui s'était un peu brûlé tellement qu'il avait joué, qu'il avait quand même joué au 4, puis il avait assez aimé le côté un peu MMO-esque, si on veut, du Donjon 4, même si c'est souvent quelque chose qui est reproché à Donjon Dragon 4e édition.
Ouais.
Puis le gars, il dit, je me suis pas trop occupé de la 5e quand il est sorti. Je suis comme, ben je me ressemble, je me reconnais, ça me ressemble. C'est exactement mon feeling.
Ton parcours.
Puis mon parcours. Fait que je me suis dit, moi, l'écouter, de voir ce qu'il y a à dire. Puis, en gros, ce qu'il disait, c'est que 5 était mauditement une belle édition. Ça revient un peu au style de jeu de 3.5, mais en simplifiant les règles, puis en enlevant ce qui était inutile, la complexité inutile. Là. Bref, j'ai quand même trippé, puis j'ai sûrement essayé de convertir ma game de Pathfinder à Donjon 5e édition. C'est un sacrilège peut-être pour certains.
Ouais.
Mais pour moi, là, qui joue une fois au mois et demi, j'ai pas le temps de m'asseoir sur toutes les règles tout le temps. Fait que je passe plus de temps à chercher les règles des fois qu'à.
Surtout si tu t'assieds dessus. Là.
Ben ouais, voyons, sont où mes règles.
Mais ça, il y a tellement de place où aller avec cette joke-là. On ira nulle part. Mais tu disais aussi par contre.
Holy fucking shit!
Mais tu disais aussi, par contre, qu'il y a ta copine qui joue avec toi.
Oui.
Ben avec vous, avec votre groupe. Puis qu'elle est vraiment néophyte par rapport au jeu de rôle.
Ben oui et non. Elle a quand même joué pas mal depuis qu'on est à l'université, là, 4e édition, 5e édition, tout ça. Puis il y a des règles qu'elle arrive juste pas à comprendre le sens. Là, dans le sens où elle dit c'est bien compliqué. Genre, elle dit dans Pathfinder, caster un spell de toucher. Ou est-ce que là, si tu peux pas être à côté du gars pour faire ton spell de toucher, sinon il peut te sacrer un coup pour attaque d'opportunité. Puis là...
Il y a trop de règles à se rappeler.
Je l'ai convaincu en disant, ben, tu sais, la règle que tu n'arrives jamais à te rappeler, ouais, l'affaire des spells de toucher, là, j'ai dit, ben, il n'y en a pas. Elle a dit, tu m'as convaincu. Fait que, ben, c'est ça. Ils ont enlevé, je trouve, beaucoup de règles qui alourdissaient le système. Puis pour quelqu'un qui aime avoir des règles pour toutes, ben, effectivement, c'est peut-être pas le jeu, mais pour quelqu'un qui veut revenir à l'essence de jouer,
de faire du rôle. Ouais. J'ai toujours trouvé ça un petit peu aliénant quand les jeux de rôle de table. Dans la complexité mécanique, te faisait prendre des décisions qui servaient juste les règles. Fait que tu faisais pas un rôle, tu faisais pas quelque chose que ton personnage ferait. C'est juste que, bon, ben selon les règles, ça va m'avantager de faire ça. Il me semble que ça dénature le jeu. Tu sais, je peux jouer à des jeux de société, genre si je veux juste gérer des règles puis avoir un résultat.
Ouais.
Fait que, cool.
C'est ça. Sinon, ben aujourd'hui, on est le 15 décembre. On enregistre un 15 décembre. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait ce soir, Matt?
Non, je sais bien pas.
Piu, 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 piu.
Ah ben oui, c'est vrai. On s'en va dessus après l'enregistrement du pod écouter Rogue One.
Exactement.
En première. Et là, on l'écoutera pas, Joliette, parce qu'on ne l'écoutera pas doublé. Il n'y en a pas question.
Nope. Donc, juste en lien avec ça, justement, ben j'écoutais un podcast que j'aime bien là, qui s'appelle Let's Talk About Star Wars, qui font à peu près, généralement, aux deux semaines ou au mois, même quand il n'y a rien de nouveau. Tu sais, fait que ça, on le fait quand il y a quelque chose à dire. Bref, ils ont parlé du roman, dans le fond, qui est un genre de préquel, si on veut, à Rogue One, qui s'appelle Catalyst, qui raconte l'histoire des parents de Jin, qui est la personnage principale, finalement, de Rogue One. Un peu comme... en fait, on la suit comme... Au début du livre, elle naît comme bébé dans les premiers chapitres, puis on la suit un peu dans sa petite enfance, mais elle est hyper secondaire. Là. Elle est là, j'en fais un dessin à court. T'sais. C'est un enfant, là, elle est zéro importante dans l'histoire, à part le fait que c'est comme, elle est là.
Ça, mais son père est un personnage important dans Rogue One, à ce qu'on en sait présentement.
Ouais, ben c'est ça. Bref, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a quand même beaucoup de spoilers que je pourrais donner, mais on suit dans ce livre-là la construction de la Death Star, finalement.
Quand même, quand même.
Ça part, tu sais, au début du livre, juste un petit peu après qu'on ait vu les plans, comme dans les fan-films. Là,
je m'entends
quand pas. Les prequels. Les prequels. Donc, on voit un peu le début de la construction à partir du plan... mais ils ont les plans, puis dans les plans qu'on voit dans le film, on comprend que l'arme n'est pas dans les plans.
Ah.
Ils savent où est-ce qu'elle va être, mais ils savent pas ce que c'est. Ils ont comme pas développé ce bout-là. Fait qu'on apprend aussi toute l'espèce de conception en arrière du gros piou-piou qui détruit les planètes. Là.
C'est comme Halt and Catch Fire, mais qui bâtissent une Death Star.
Ils bâtissent une Death Star à place d'un IBM, tu sais.
Même combat.
Fait que super intéressant. Moi, en fait, je me suis tapé le livre assez rapidement. J'avais commencé sur un petit bout de temps, puis on dirait que le film qui s'en venait me donnait le goût de le rusher et de le finir. J'ai fini ça tantôt, finalement, pendant mon heure de dîner. Là. Fait que...
mais vous nous écoutez dans un monde post-Rogue One, parce qu'il va être sorti, évidemment,
c'est ça.
Depuis quelques jours.
Fait que vous savez plus de choses que nous, présentement.
Ce qui est probablement le cas, même si vous étiez ici, dans la pièce, pendant qu'on enregistre.
Ouais, ça se peut aussi. Parce que moi, j'aime bien ne pas me spoiler trop d'affaires. Autre truc intéressant, par exemple, que j'ai aimé dans le roman, c'est qu'on voit un point de vue qu'on voit pas souvent de l'Empire. Tu sais, l'Empire, on le voit dans les films, c'est le gros evil, c'est le mal incarné, c'est... Puis on voit un point de vue de quelqu'un qui est comme ben, qui fait de la recherche, c'est un scientifique, puis qui a une façon de dire, ben, tu sais, dans le fond, l'Empire veut qu'il y ait la paix dans la galaxie, tu sais, fait qu'ils s'y prennent d'une façon.
Ça le rend crédible,
Ben, c'est ça, tu sais, c'est les débuts de l'Empire, là, on s'entend, c'est dans les premiers temps, c'est un tout petit peu après que l'Empereur dit, ben, je suis un empereur, puis les Jedi m'ont fait ça, tu sais, parce qu'il explique son changement d'apparence pour Jedi, là.
Ouais, montre-nous sur la poupée où les Jedi t'ont touché.
C'est ça, exactement. Bref, on voit le côté de, ben, l'Empire veut juste qu'il y ait la paix dans la galaxie, fait qu'ils veulent plus qu'il y ait de conflit, puis, tu sais, c'est un petit côté intéressant de la propagande, si on veut, de l'Empire qu'on voit moins dans les films, parce que les films, c'est de l'action, ça va vite, c'est piou-piou, puis bref. Sinon, pas tellement de gaming pour moi cette semaine. Ça a été assez tranquille. C'est peut-être les derniers moments. Là.
On s'en doutait que tu avais compris que tu n'avais pas gamé. Oui, on avait compris que tu n'avais pas gamé beaucoup parce que il me semble que tu as écouté bien des affaires.
Non, j'ai écouté bien des affaires et j'ai lu. Ça ressemblait à ça. Fait que justement, parlant de congé, là, restez à la fin de l'épisode. On a des choses à vous dire importantes.
Oui, ouais. Pour la suite du pod dans les prochaines semaines.
Toi, Matt?
De mon côté, parlant de choses à écouter, j'ai quand même commencé à écouter Westworld, ouais. Parce que j'attendais que ça finisse, parce que tout le monde dit que c'est vraiment plein d'intrigues, puis que là, tu veux savoir la prochaine semaine. Fait que j'ai commencé ça. J'ai 4 épisodes d'écouter là, dans les 2 dernières semaines.
Il faut que...
Ben, c'est je voulais en parler sur le pod, parce que c'est quand même un show qui traite de jeux vidéo de façon indirecte. Parce que ça se passe dans une espèce de parc d'attractions pour gens extrêmement riches, où ils programment toutes les NPC, en fait, sont comme des espèces d'humains virtuels. Sont des machines qui ont des comportements humains. Fait qu'il y a tout... Le langage est utilisé là, de mise à jour, de bugs, de glitch, de easter egg, de jeu, évidemment. Parce à chaque jour, la journée recommence pour la plupart des NPC, là, qui appellent les hôtes, en fait. Puis il y a vraiment comme une espèce de inside hockey, ou de inside baseball, là, mais moi, je suis au Québec, fait que c'est inside hockey. d'une espèce de gaming imaginaire. Fait que ça a un intérêt pour les gamers qui est intéressant. Mais au-delà de ça, c'est juste un show vraiment très, très bien produit, très beau, avec une trame sonore assez impressionnante à date. J'ai hâte de finir le show pour voir si j'en ferai pas justement un survol avec vous. En dehors de ça, on a eu droit à la sortie de la bande-annonce du jeu Old Time Hockey.
Ah ouais!
Qui semble être d'une part, un hommage au jeu de hockey arcade, parce que ça a l'air d'être un genre qui est complètement mort, comme j'avais d'ailleurs déploré quand on a fait notre épisode de hockey. Il reste juste les NHL, il reste juste les simulations, puis il n'y a plus rien d'autre. Fait que là, on va avoir un jeu de hockey qui se présente un petit peu à la NHL. La patinoire est toute bleue. La caméra est vue de haut. Fait qu'on a vraiment comme un throwback au vieux NHL. Mais
au vieux NHL. Là,
exact. Oui, oui, au NHL classique, là, 93, ben, 94.
Puis ça, les icônes de sélection des joueurs, de ce qu'on voit dans le trailer, là, ouais. C'est l'étoile. Comme
EA avait fait, en fait, dans leur édition anniversaire de NHL récemment. Mais bref, d'un côté, un hommage, un retour à ça. Puis d'un autre côté aussi, un hommage à Slapshot puis à la culture du hockey des années 70, où ce que les personnages portent pas de casque, ils ont des chandails tout croche, ils ont l'air dans une espèce de ligue de garage. Les batailles sont sanglantes, over the top. Il y a même dans le trailer des gars qui se vergent dessus à coups de bâton de hockey pendant une bataille. Puis il y a clairement des références très, très directes à Slapshot.
Ah,
là.
C'est évident.
Le gros afro de Huggy Oglethorpe dans le trailer. Puis les blues qui ont clairement le logo des Chiefs, qui emportent les couleurs. Fait que bref, ça a l'air d'être un beau melting pot destiné... à moi et aux gens qui ont la même exposition au hockey. Donc, ben hâte de voir ce qui va en être. Ça sort l'année prochaine. En faisant des recherches pour ce que je vais parler plus tard dans l'épisode, j'ai dû faire des recherches sur Scott Pilgrim. Puis je me rappelle qu'à une certaine époque, il y avait un créateur d'avatar de Scott Pilgrim en lien avec le film. Bon, mais le créateur de cet outil-là, du Scott Pilgrim Avatar Creator, dans son portfolio, le gars, il l'a encore. Fait qu'il est encore sur le net, même si le site original l'a pu. Fait qu'on vous mettra le lien, mais c'est un beau petit outil pour se créer un petit avatar geeky de nous-mêmes à la Scott Pilgrim. Il y a pire, hein? Fait que c'est... Non, je suis content de voir que ça existe encore.
Je l'ai encore, cet avatar-là, dans mon ordi.
Ben, tu pourras le mettre à jour. Changer ton âge.
Ton
rating va peut-être être moins awesome.
Peut-être.
J'aime bien, il y a une petite description en dessous, là, puis c'était genre, tu sais, mettons, The Roommate ou des trucs comme ça, puis t'avais le Kind of a Bitch, genre, and some jerk, des trucs comme ça.
Ah, c'est bon, je savais pas que ça existait encore.
Ouais, fait que j'étais bien content de voir que ça existe encore. Et j'ai découvert hier soir un subreddit terrifiant. Tu sais, quand on dit, tu commences à creuser sur le net, puis tu sais pas ce que tu vas finir, là. J'ai découvert... le subreddit « Of course that's a thing », qui, évidemment, est rempli de liens qui te font dire « Ben oui, c'est sûr, ça existe, on est sur le net. Hein? »
Je trouve que c'est une belle autoréférence. Ce reddit-là, en lui-même...
Ouais, ouais, évidemment, bien sûr, hein, c'est quelque chose. Et j'ai tombé justement sur des... Principalement, c'est des liens vers d'autres subreddits, mais avec le temps, c'est devenu plein d'autres choses à ce que j'ai compris. Et j'ai trouvé des subreddits comme Smoking Crabs, qui sont des photos de crabes en train de fumer. J'ai trouvé un subreddit dédié entièrement aux... plume, au crayon fontaine, je sais pas c'est quoi le terme exact, là, stylo, bon. des Plumes Fontaines, qui est Fountain Pens, bien sûr. Et mon préféré dans ce que j'ai trouvé vraiment hier, c'était Shaq Holding Things, qui est un subreddit dédié entièrement à des photos et des vidéos de Shaquille O'Neal en train de tenir des choses. Avec des...
C'est bon.
Avec des titres tels que Shaq Holding Too Many Tacos ou Shaq Holding A Krispy Kreme Donut. Mais des fois, ça devient un petit peu métaphysique,
Méta.
Hein? On a Shaq Holding A Very Small Book. Peut-être que c'est un livre de taille normale, mais bon.
Ah, c'est ça.
On a Shaq Holding His Legacy. Ça se trouve être comme une photo de famille, mais il a aimé ses épaules de ses enfants. On a Shaq Holding High Contact. On a Shaq About to Hold Muhammad Ali. Et ensuite, on a Shaq Actually Holding Muhammad Ali. Il y a vraiment un univers à découvrir de Shaq et sa capacité à tenir des choses.
Mais tu sais, des fois, il faut être capable de reconnaître les skills des gens.
En fait, un de mes préférés, c'était Shaq Holding a Pose in which Shaq Holds his Face. fait que c'est Shaq Holding Shaq.
Ah oui, c'est bon.
Ouais, c'est...
Shaqception.
Shaqception, non? Mm-hmm. Fait que je suis désolé d'avoir perdu 2 minutes de votre temps, mais c'est les minutes qu'on sauve quand Jeff ne dit pas ce qu'il a fait cette semaine. fait que je peux bien les gaspiller avec ça.
C'est ça.
Alors, dans l'actualité cette semaine, le site de nouvelles technologiques incitant de nombreux jeux de mots de goût questionnable...
0,9 mètres.
Exact. La Verge nous annonçait le CD le plus vendu de 2016 selon Billboard. Il s'agit de nul autre que Mozart 225, The New Complete Edition. Un ensemble composé de 200 disques regroupant toutes les œuvres du compositeur. Oui, le point d'interrogation s'impose. On pourrait croire...
Hein?
Ouais, merci. On pourrait croire que ceci nous prouve que seuls les vieux culturistes maniaques de musique, culturistes là, pour pouvoir lever la boîte, là, achètent encore des CD. Eh bien non, la situation est attribuable à la méthodologie questionnable de Billboard. En effet, le fait qu'il y ait 200 CD dans la boîte contredit un peu l'idée que ce soit le CD le plus vendu de l'année. Car Billboard compte chaque CD dans la boîte comme une vente. Ainsi, le total de 1,25 million de copies vendues représente plutôt 6250 ventes.
Ce qui est quand même impressionnant pareil, là, à 6250 ventes.
Mais j'ai été voir le détail de la collection et c'est incroyable. Il y a même il y a un travail de recherche fou. Il y a même les 3-4 derniers disques, je crois, c'est les œuvres où est-ce que la source n'est pas 100% vérifiable comme étant à Mozart, mais on l'inclut quand même dans un but de rigueur. C'est un peu mental. Mais bon, hein? Fait que félicitations à Billboard et aux vieux culturistes mélomanes d'aider à attirer l'attention avec des données excessivement pertinentes. Ensuite, j'apprenais sur Kotaku cette semaine qu'une nouvelle expansion était disponible pour Forza Horizon 3, expansion du nom de Blizzard Mountain. Comme le nom le suggère, cette expansion permet aux joueurs de s'amuser en conduisant dans des conditions hivernales avec visibilité restreinte ou même quasi inexistante.
C'est tout ça que j'ai vu comme titre passer, genre que c'était trop réaliste, genre?
Ouais, Kotaku, là, le gars se plaignait un petit peu que c'était le gars s'est parqué sur le bord du chemin.
Ben, c'est réaliste. En réalité, c'est une bonne idée.
Ben, voilà. Mais heureusement, il s'agit que d'un jeu vidéo. Fait que les déneigeurs virtuels font une crissement meilleure job. Sinon, ça ferait pas un très, très bon jeu de course de rester peigné dans le trafic pendant 3 heures. Ben, ou sinon, on pourrait avoir un mode d'auto-tamponneuse comme sur la côte du Beaver Hall à Montréal.
Ah, il te manquerait un petit drop de musique de...
Ah, c'est une crise de table. Ah, OK, non, j'y allais avec l'hymne national des Québécois.
Oui, c'est ça.
Oui. Ensuite... Ars Technica nous apprenait que le site de streaming Twitch allait finalement offrir une méthode pour contrôler l'abus de sa fonction de chat nommée Automode. Le système pré-filtre les messages et place ceux qu'il considère comme potentiellement offensants dans une liste pour que le diffuseur puisse les juger par lui-même.
C'était quand même temps.
Mm-hmm. Ouais, c'est peu dire, là. 4 réglages d'agressivité de la détection sont offerts et le système identifie des messages offensants par différents types, soit identité, pas sûr que ça veut dire. Langage sexuel, langage agressif et profanité. Automode utilise un système de machine learning.
Ah, identité, ça doit être pour les swatters, là.
Ah, ouais, OK. Ouais, ça a bien du sens. Mais bon, le système utilise du machine learning, c'est-à-dire que plus longtemps il sera en fonction, plus il apprendra et pourra être efficace. Donc, selon les statisticiens là, de l'Institut du Vent Quest, en prenant en compte la teneur actuelle des chats sur Twitch, le système devrait mettre fin à ses propres jours avant la fin de la première journée suivant son activation.
Je fais une parenthèse pour peut-être ceux qui ne sont pas des habitudes de Twitch. Les swatters, c'est des gens qui vont caler la swat à dans le fond, chez quelqu'un qui est en train de streamer en disant ce gars-là, il est barricadé chez eux, il y a des armes.
Ouais,
ou très intelligent parce que maintenant aux États-Unis, c'est le genre d'affaires qui te défonce ta porte, puis ça se pourrait qu'il te tire dessus.
T'sais. Puis la caméra est encore allumée, fait que tout le monde peut enjoy the show pendant que tu es en train de te faire arrêter pour aucune bonne raison.
Très, très drôle. Félicitations.
Mm-hmm. On la rit. Le 13 décembre dernier, le département des transports américains, le DOT, ont présenté une proposition officielle visant à faire que tous les véhicules produits à partir de 2023 devront implémenter un protocole standard pour pouvoir se parler de véhicule à véhicule, c'est-à-dire du V2V. Il ne s'agit pas d'une façon de capitaliser sur la popularité des films Cars. Hein?
Non, t'es sûr?
Peut-être.
Ça dépend si le protocole implique des yeux et des bouches qui bougent. Hein,
mais... Ce serait peut-être un petit peu excessif. Mais bien d'améliorer de façon unilatérale la sécurité routière. En tout cas, selon le texte de la proposition, là, parce que selon le résumé que le site Jalopnik en fait, puisque le document de la proposition fait un tout petit 392 pages, là, fait que si ça vous intéresse, ben on vous donnera pas le lien sur les réseaux sociaux. Rangez-vous.
Voilà.
Le texte expliquerait le protocole de communication, les informations partagées et la fréquence des échanges. Bref, tout ce qu'on retrouve typiquement dans la description d'un protocole de communication. Le document prétend aussi que l'implémentation du protocole pourrait prévenir des centaines de millions d'accidents et sauver plus de 1000 vies annuellement, ce qui est relativement conservateur comme estimation. Mais la seule interrogation qui me reste, hein, c'est que j'aimerais bien savoir ce que les voitures pourraient avoir à se dire quand ils sont pris sur une intersection côte à côte. T'sais, j'imagine que tout ce qu'un PT Cruiser aurait sûrement à se dire, là, c'est...
Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill me!
Probablement.
Si vous savez pas ce que ça a l'air un PT Cruiser, vous pouvez juste googler Corbillard Sport. Vous devriez trouver sur une photo.
C'est une belle définition, j'aime ça. Ben oui, hein, comme ça le disait tantôt, Where's Jeff? Jeff est pas là, fait que c'est direct moi.
Ah ouais, go!
Fait que aujourd'hui dans l'univers des Divan Quest, le 19 décembre, je commençais en 1916, qui était la journée qui notait la fin de la bataille de Verdun. Et non, là, je parle pas de la sanglante bataille dans le match entre les Maple Leafs de Verdun et les Generals d'Oshawa lors de la finale du George Richardson Memorial Trophy.
Je me rappelle comme c'était hier.
En partant, ces équipes-là n'existaient pas en 1916, puis ces finales-là, pour ce trophée-là, c'était en 39 puis en 40.
Mais on parle bien de la bataille de la Première Guerre mondiale en France.
Yes, c'est ça.
C'est ça.
Non, on parle de la bataille en Lorraine pendant la Première Guerre mondiale, voilà, comme tu l'as dit, entre les Français et les Allemands. 1958?
Je sais juste c'est quoi, parce que j'ai joué à Valiant Hearts. J'ai comme aucun espèce de mérite.
Ben, tu sais, c'est bien? L'utilité des jeux vidéo.
Et voilà.
Des ben, fois.
Je suis de... plus haut. Mais...
1958, première transmission radio en provenance de l'espace, alors qu'un message préenregistré du président Eisenhower est transmis à partir du satellite expérimental du projet SCORE. Il semblerait qu'il l'ait fait par les ondes un gag d'oiseau de basse-cour. Pas trop certain de comprendre pourquoi les gens gaspilleraient des ondes pour faire ce genre de choses-là. Mais bon. 1972, journée qui note le retour sur Terre de la dernière mission Apollo, qui était Apollo 17. En débarquant, les astronautes Eugene Cernan, Ron Evans et Harrison Schmitt auraient dit « Calvaire, il était temps qu'on arrive, Eugène a lâché un pet en partant.
» Sacré.
Tant que les vacances arrivent, hein. Je pensais faire une joke de pet dans mes...
Vous n'avez pas compris, c'est notre épisode de Noël.
Ouais, c'est ça.
Ouais, yeah. On fait des jokes de pet, ça change rien d'habitude.
C'est des jokes de pet d'astronaute.
C'est ça. Mais que ça fait, que, c'est quoi le son que ça fait un pet d'astronaute? La même chose que les autres.
Voilà. 1984. Journée qui note l'événement où un joueur de hockey deviendra le 18e joueur de l'histoire à dépasser les 1000 points en carrière. Oh. Ce sera aussi le joueur qui a atteint ce point le plus rapidement en seulement 424 matchs. Et je parle ici du joueur des Oilers d'Edmonton.
The Great One.
Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm on the try ground. Good to hear. Choose hockey. Croissant, Canada entier, détermination de vaincre, l'espoir pour toi. C'est Rock Crusader.
Tu constates pas.
Jamais. Toujours du plaisir. 1986, sorti au Japon de Kid Icarus sur le Famicom Disk System.
Oui.
Cette patente là qui utilisait des disquettes double face qui se connectait sur le Famicom comme une espèce de
face hugger alien.
Head crab. Ouais, c'était assez impressionnant quand même de voir ça. Sinon, en 94, sorti sur DOS d'un petit jeu d'aventure plateforme pas piqué des verres qui s'appelle Blackthorn.
Yes.
Pour ceux qui voudraient l'essayer, ce jeu-là là, il est disponible gratuitement depuis 2013 sur le site de Blizzard, qui est ceux qui ont créé ce jeu-là. Je mettrai le lien sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine quand même.
Ah, c'est un très, très bon jeu.
Oui, puis dans le fond, quand tu le télécharges, il est comme auto-inclus dans l'émulateur là, de DOS. Là, fait que tu le pars, tu le roules, bang, c'est...
Puis sinon, ben, évidemment, il était disponible aussi sur Super Nintendo. Super NES. Et d'autres plateformes. Ouais, là, je ne veux pas m'avancer, mais entre autres Super Nintendo. Touchez pas à la version Game Boy Advance. J'en parle parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup.
Ah oui, tu m'en avais déjà parlé.
Et ce port-là, il ne marche juste pas. L'écran, la résolution du GBA étant limitée, ils vont faire scroller l'écran de haut en bas. Puis ça fait des fois qu'il y a de l'information qui est juste pas visible, qui te permet de comprendre l'environnement. Bref, absolument éviter la version GBA.
Mais Super NES ou sur DOS, là, qui est gratuit, en fait. C'est facile. Sinon, en 95, sorti sur PS1 du jeu de combat Weird, là, où tu te transformes en animal, Primal Rage.
C'est tellement bon.
C'est tellement bon.
Ouais, c'est tellement bon.
Puis j'avance en 99, décollage de la navette spatiale Discovery pour une mission de réparation du télescope spatial Hubble. Je trouvais que ça faisait tellement fin d'année 90 là, comme nouvelle, ça. La navette spatiale Discovery Hubble.
Et c'est la dernière fois qu'on a parlé de Hubble.
Oui, oui, oui. On croirait quasiment entendre Grégory Charles en parler au débrouillard. Sinon, en même journée, en 99, le magazine Time annonce que la personnalité de l'année serait Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, en citant parmi les raisons le magasinage en ligne. Hein, et pour tous les campagnards qui sont à l'écoute, je dis merci à M. Bezos. Sinon, j'avance en 2001, la sortie du très, très, très attendu jeu sur Windows, le jeu Kayak Extreme.
Oh, hey, j'ai passé des... Non, pas en doute.
Ouais, on s'en est-tu, hein, de l'espèce de mode des jeux de sport extrême au début des années 2000?
Oh, ben, c'est vrai que ça, c'est la mode des tout simulators. Que...
Ah, ben, ça marcherait, je pense. Jeu de kayak.
Ça serait juste Kayak Simulator, c'est la seule différence.
Ça serait pareil. Sinon, ben, je vais en 2013 avec la journée où l'Agence spatiale européenne plutôt a lancé le satellite Gaïa avec comme mission de monter un catalogue d'objets astronomiques, qui est une belle mission.
Happy birthday to you.
Tranquille quand même les naissances aujourd'hui. On retrouve entre autres en 1915 Edith Piaf, née Edith Giovanna Gassion, qui ne regrette rien là, selon sa toune, sauf peut-être son nom de naissance là, parce qu'elle l'a changé. Puis un pour toi Matt, en 1924, un monsieur qui est un ancien défenseur, un entraîneur dans la NHL, monsieur Doug Harvey.
Oui.
Oui. Puis en 1962, le comédien, humoriste et scénariste Ghislain Tachereau, oui, très connu pour ses personnages colorés du temps où il était dans les Bleus Poudres, comme le très célèbre chanteur Dave Ash,
oui,
qui nous interprète.
J'étais sûr que t'allais commencer avec Bobinette, mais non, t'es rentré avec Dave Ash.
Alors Dave Ash direct, qui nous interprète ici sa chanson sur l'indépendance du Québec.
L'indépendance du Québec, expliquée aux enfants.
C'est rough, pas de sous-titres. Hein?
Oui, effectivement. Puis pour les gags visuels, vous aurez les vidéos sur le Facebook de Divan Quest.
Ouais, puis même pour les gags audio. Parce que...
voilà. Sinon, je finis ça avec mon tout nouveau proverbe du jour qui dit que le 19 décembre est aussi la Saint-Urbain. Hein? Et comme tout le monde le sait, s'il peut aller à Saint-Urbain, c'est 40 jours de pluie en chemin.
On est tout petit, on est à chier.
Et c'est le petit moment qu'on prend dans le show pour remercier nos très chers donateurs Patreon qui nous permettent présentement, en fait cette semaine justement, on payait l'hébergement et le nom de domaine. C'est pas rien. Hey. Ça fait qu'au lieu de payer notre poche, on peut continuer à faire ça et investir à faire un meilleur show. En général, c'est en achetant de l'alcool. Mais
sauf quand on s'en va voir Rogue One après puis qu'on prend notre char. Là.
Voilà, on est quand même responsable, franchement. On va boire cette nuit. Non, c'est pas... Merci à tous les donateurs.
Mais oui, un gros merci. C'est super apprécié. Blade of Steel.
Ben, comme on a mentionné beaucoup trop tard dans le show, c'est notre épisode de Noël, puis on a décidé de se faire un petit peu des cadeaux à nous-mêmes. Ce qui, ben, en fait, moi, ouais, c'est questionnable.
Bon. Ça me donne des questions sur mon estime de moi-même, en tout cas.
Vous avez le choix, là. Attendez plus tard ou lisez dans les commentaires pour comprendre pourquoi Dan se déteste un petit peu présentement. Mais moi, j'ai décidé de me faire plaisir, puis sans vouloir faire une review d'un film, puis juste parler de Scott Pilgrim pendant 20 minutes.
Parce que 20 minutes, le show durait 2 heures, là.
Ben, c'est ça.
Genre, on en parlerait plus longtemps que la durée du film.
On aurait dû se planifier ça comme causeuse. Anyway.
C'est pas fou.
Une autre fois. Je me suis dit, comment je pourrais parler de Scott Pilgrim en restant dans le thème du show? Ben, quand j'ai lu Scott Pilgrim pour la première fois, une des choses qui m'a rapidement frappé, c'était les noms des bands. Tu sais, évidemment, tout le monde le sait, là, que c'est des jeux de NES, là, mais ça reste que c'est des jeux qui sont assez peu connus. Puis pourtant, c'est des jeux qui sont super intéressants, là. Puis il y en a même un des deux, des noms de bands qui sont utilisés dans le film, qui est un de mes jeux préférés au NES. Fait que je me suis dit qu'on allait, parler un petit peu des jeux derrière les noms. Fait qu'on va commencer tout de suite avec... And then... It was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead!
Si vous n'entendez plus parler du reste du pod, c'est parce que je suis parti écouter le film.
Clash at Demonhead, donc. Développé et publié par Vic Tokai ou Tokai, whatever, en 89 au Japon et sorti ici en fait en 90. C'est un platformer non linéaire, donc un Metroidvania. C'est pas un genre qui pleure là, au NES.
Non,
parce que c'est quand même techniquement assez demandant de faire ça avec les limitations de la plateforme.
Ouais, parce que même Metroid au NES, il n'est pas si loin que ça.
Mais c'est ça. Ce qui le distingue un petit peu par contre de la formule qu'on s'attend des Metroidvania, là, c'est que c'est quand même divisé en zones. C'est-à-dire que la carte est constituée d'une série de points, puis on fait les trajets entre les points, puis c'est ça les tableaux. Donc, on choisit les chemins sur une carte plutôt que de naviguer naturellement, comme dans Metroid ou Castlevania, qui donne le nom au genre. Encore une fois, parfaitement en ligne avec le genre, là, on a une panoplie d'items qui nous donne des habilités puis qui nous permet d'explorer les différentes zones. On a un jetpack pour voler, on a un scaphandre pour aller sous l'eau, on a un super suit pour nager dans de la lave puis grimper ces murs de glace qu'on ne peut pas grimper normalement. D'ailleurs, le scaphandre s'appelle le Aqualung. Bon, en tout cas, pour tous les fans de Jetro. Bref, il n'y a rien d'anormal là, jusque-là pour le genre de jeu. Par contre, ça reste quand même, comme je disais tantôt, un jeu qui est assez unique. Il n'y en a pas des milliers de semi-RPG où on peut explorer librement les environnements à l'époque du NES. Là. Celui-là, par contre, est quand même dur d'approche. On est vraiment libre d'aller partout au début, ce qui fait qu'on n'a aucune crise d'y dévoiler.
C'est ça.
Oups. Fait que mettons que découvrir
c'est
ce
jeu. Hein,
ouais, c'est ça. Fait que mettons que je découvre ce jeu-là aujourd'hui. Là. Mettons que je suis dans vos shorts puis vous avez jamais checké ce jeu-là. C'est pas une mauvaise idée de s'ouvrir un walkthrough sur GameFAQ puis commencer par là. Parce que c'est un petit peu obscur quand on l'ouvre la première fois. Mais ce qui met ce jeu dans une catégorie à part, puis peut-être qu'il lui mérite justement sa place dans Scott Pilgrim là, comme référence de jeu, comme étant marquant pour l'auteur, ben, à part le fait que le nom ressemble à The Clash, bon, hein? C'est que derrière le art assez générique, science-fiction cheap des années 80, cliché de la pochette du jeu, le jeu lui-même y est noyé dans une esthétique de manga et de dessin animé japonais comme peu de jeux qu'on a eu en Amérique sur le NES. Y a un article de Jeremy Parrish sur Clash of Demonhead, on mettra le lien sur Twitter, Facebook and shit, qui met en contexte le whitewashing que les jeux recevaient souvent quand ils étaient distribués ici. Juste à penser là, comment que Dragon Warrior essaye d'attirer les fans de Donjons et Dragons avec sa pochette, quand on sait que Dragon Quest, c'est une franchise à laquelle participe Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, entre autres en designant les personnages puis les arts du jeu lui-même. Là. Mm-hmm. Mais souvent, justement, c'était assez de modifier juste la pochette. Là. Une coupe de gogos dans le jeu, là. Genre, s'il y a des sushis ou des boules de riz, ben, on met un burger à la place, puis des patates, puis tout le monde. Ben, voilà, puis là, tout le monde comprend. Puis c'est plus si japonais. Évidemment, la limitation du style visuel pouvait y contribuer un peu aussi que. Genre, c'est pas si défini comme étant dessin animé japonais la plupart du temps ou comme étant si. Tu sais, on imagine juste Final Fantasy, comme on parlait dans la dernière causeuse, là. Que. T'sais, ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait les personnages d'origine était peut-être beaucoup plus japonais, beaucoup plus anime que ce qu'on a vu.
Ouais, puis, mais en même temps, sur du 8-bit, ça paraît pas tant non
et
plus.
Et voilà. Fait que c'est pour ça que c'était plus facile de les adapter que ça pourrait l'être de faire la même chose aujourd'hui. Mais là, Clash of Demon Head, c'était impensable de tout américaniser ça. Là. Le jeu se prend zéro au sérieux, d'une façon qui est assez surprenante pour l'époque. Parce que autant qu'on pense que les jeux de Nintendo sont pas des jeux qui se prennent au sérieux ou qui ont un univers sérieux. Hein? Là, on n'a jamais de l'humour en tant que tel à cette époque-là, ou très, 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 très peu d'humour dans un jeu qui est pourtant léger. Tandis que là, on arrive dans un jeu qui est plein d'humour absurde, de personnages avec des réactions excessives, puis une histoire qui n'a aucun maudit bon sens là, en chemin. On incarne Billy Big Bang Blitz.
Ben oui.
Ben oui, hein? Un sergent du Sabre, qui est un acronyme de Special Assault Brigade for Real Emergencies. Nous, ici à Divan Quest, on fait juste partie du SABFE. C'est le Special Assault Brigade for Fake Emergencies. OK, good. Et Billy Big Bang doit sauver le professeur Plum, inventeur de la Doomsday Bomb. Okay. Et on apprend que la bombe est contrôlée par 7 médaillons qui sont dans les mains des gouverneurs de Demon Head. Puis on doit les récupérer pour désactiver la bombe avant de tout crever. Ça a pas l'air d'être une histoire la plus inspirée de vue de même, là, mais c'est bourré d'histoires secondaires vraiment weird, là, avec des personnages puis des dialogues qui valent vraiment le détour. Il y a de nos alliés qui se font brainwasher, il y a des démons qui se font réveiller. Pis...
Il y a l'air d'avoir une solide narrative pour un jeu de NES quand même. Là.
Énormément. Les personnages, puis il y a même des plot twists qui incluent des personnages qui sont plus tôt dans le jeu, mais si tu tires sur un personnage qui est pas méchant, il y a juste une petite bulle en haut de sa tête qui apparaît et qui dit « No ». Fait qu'il est là, puis tu gunnes dessus, puis ça fait « No,
no. ».
Fait que tu peux pas, malheureusement, devancer les événements du jeu si tu sais c'est qui va te crosser plus tard ou peu importe.
Il dit non.
Il dit juste non, il refuse de se faire gunner.
Ben, tu sais, ouais. Ça serait si facile si c'était comme ça dans la vraie vie.
Mais à côté gameplay, c'est là que le jeu, justement, perd des points. Les contrôles sont un peu stiffs, puis les zones là, que je décrivais, là, les chemins entre les points, sont très peu inspiré. Ça devient rapidement un problème dans un jeu où ce que le style demande de répétition. Imaginez justement si naviguer les environnements dans un Castlevania, c'était plate. T'en viens à bout de vite. Puis c'est pas un jeu qui est facile, c'est un jeu de NES. Fait que donc, en plus d'être laborieux, que devoir explorer beaucoup sans trop savoir où tu vas, c'est difficile. Ce qui fait que, bon, ça a peut-être fait justement qu'on le connaît pas plus que ça aujourd'hui. Mais, un Metroidvania moyen, mais avec un humour puis une personnalité crissement japonaise, c'est ce qui fait que le jeu, justement, a mérité son rôle de jeu culte. Donc, probablement, c'est pas le jeu qui va se retrouver là, dans le top de vos listes de jeux de NES, mais ça vaut mauditement le détour. Ça vaut à peine d'être connu si vous êtes vraiment fan de gaming.
J'allais être fan de Scott Pilgrim. Moi, je tombe dessus, je l'achète chaque cause de tout ça.
Ben, si j'avais lu récemment, faudrait vérifier la validité, là, mais que c'était le premier jeu que Brian Lee O'Malley, le créateur de Scott Pilgrim, a joué. Puis évidemment, ça a laissé une grosse impression sur sa vision du gaming, je suppose, parce qu'il a continué à jouer pareil après avoir joué à ça.
C'est un trooper.
Ça l'a pas découragé. Ensuite, deuxième band.
We are Sex Bomb!
Oh.
Ah, malheureusement, j'ai coupé avant le décompte. Bon, OK, bon, ça, c'est une référence à Mario, là, fait qu'il n'y a pas vraiment un jeu en particulier à parler ici.
Je pense que parler de Mario.
Et non, mais c'est pas... Anyway, tu peux pas faire un segment relié à Scott Pilgrim puis pas dropper ce clip-là.
C'est clair.
Fait que c'était tout. On passe au suivant.
Encore.
Oui.
We are Sex Bomb!
Ah, j'ai encore une déception.
C'est comme une déception à volonté. Toutes les fois, je pèse dessus.
Oui, tu peux me décevoir, puis à chaque fois, genre, je pourrais le suivre en disant...
Disappointed!
Ça commence à faire beaucoup de drops. Alors, prochaine référence, s'il vous plaît.
My name is Crash, and these are the boys.
Is that girl a boy too?
Yes.
Alors, on arrive à Crash and the Boys, ou plus précisément, en fait, Crash and the Boys Street Challenge, développé par Technos Japan et publié par American Technos en 1992. Le jeu est pour le plaisir de tous disponible sur toutes les versions de la Virtual Console, donc Wii, Wii U et 3DS. Donc, pas de raison de ne pas y jouer, mais zesti.
C'est une belle disponibilité pour un jeu, c'est cool.
Ouais, ben pour un jeu que, tu sais, oui, il y a beaucoup de monde. C'est un peu un jeu culte, mais qui mérite beaucoup plus son statut que d'autres parce que le gameplay est vraiment exceptionnel. Puis c'est un jeu qui est sorti très tard dans la vie de la plateforme.
Donc, graphiquement, il est plus.
Il est très beau graphiquement. C'est un des rares jeux qui, au NES, réussit à simuler du parallax scrolling, d'avoir des décors en plusieurs couches qui donnent l'effet de profondeur. Bref, mais c'est ça, c'est pas un jeu, tu sais, il sera jamais au niveau des Mario, etc., mais il s'est retrouvé sur toutes les Virtual Console parce que ben, le monde le demande, et avec bonne raison. D'ailleurs, au Japon, le jeu s'appelle, allons-y, Bikuri Neketsu Shin Kiroku Haru Kanaru Kin Medal. Ce qui veut dire quelque chose avec une médaille, je pense.
C'est un nom court, hein?
Ça... Ouais, ben ça coule.
C'est pour ça que cette de NES était grosse à l'époque. Pourtant, au Japon, ils sont moins gros.
Ouais, mais ils sont dans la même longueur, ils sont pas bien hautes.
OK.
Mais, oui, c'est, oui. Mais c'est un jeu qui, comme vous avez pu deviner par le nom, non?
Vous allez, mon japonais n'est pas à jour.
Ouais, c'est ça. C'est un jeu de la série Kunio-kun ou Neketsu High School. Pour vous situer un petit peu, ce que nous, on a connu ici comme étant River City Ransom, Renegade. En fait, en partie, là, bon, c'est dans le même univers, mais c'est pas le même personnage, mais les doubles dragons font partie de l'univers de Technos au Japon. Puis, on retrouve tout le temps... En fait, on trouve régulièrement Kunio comme protagoniste, donc pourquoi la série s'appelle Kunio-kun. Puis quand on parle de Neketsu, qui était dans le nom, c'est le nom de l'école secondaire qui pour nous serait en fait River City High, là, mais c'est pas aussi cohérent que ça à travers tous les jeux. Mais bon.
Une série dont tu avais déjà parlé.
J'avais déjà parlé avec Neketsu Okebu, parce qu'on retrouve encore Neketsu dedans, mais c'était le jeu de hockey finalement de cette série-là. Je vais revenir justement un petit peu là-dessus, un peu plus tard. Dans. Bikiru Neketsu. Non, dans Crash and the Boys Street Challenge. C'est un jeu, en fait, d'événements style olympique, mais crissement japonifié.
Okay.
C'est un jeu de NES, fait que c'est la bonne façon de faire n'importe quel sport, c'est de les japonifier à l'os.
Ouais,
on choisit une des quatre équipes et on doit compétitionner dans toutes les épreuves, mais nos personnages ont toutes des stats différentes, des habiletés différentes, puis ils doivent récupérer d'un événement à l'autre, donc on peut pas juste les utiliser en rafale. Y a une cinquième équipe qui existe, mais qui est contrôlée seulement par l'ordinateur, qui est comme les méchants, finalement. C'est un fils de riche qui a créé comme le tournoi, puis c'est comme lui le méchant vis-à-vis de ton équipe, si tu joues évidemment à l'équipe qui est composée de Kunio. Petite parenthèse en passant, au Japon, dans la version japonaise du jeu, les équipes sont toutes constituées de personnages qui ont été dans les autres jeux de la série. Donc, il y a même une équipe dans laquelle on retrouve les jumeaux de Double Dragon.
Ah, nice.
Ça n'a aucune valeur dans la version adaptée ici, mais la version japonaise les réfère par leur nom.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est ça, on ne peut pas utiliser les personnages comme à répétition d'une épreuve à l'autre parce que les épreuves sont quand même très demandantes pour nos athlètes. On a le 400 mètres haies. Non, c'est pas un 400 mètres ordinaire, bien sûr, c'est dans les rues. Et au lieu d'avoir les haies normales, ben, c'est des espèces de panneaux de construction. Et on peut les détruire avec notre épaule, puis ramasser le bout de bois qui est tombé à terre pour le pitcher en face de notre adversaire qui est dans l'allée à côté.
Ben, pourquoi pas?
Ben oui, bien sûr. Mais c'est vraiment présenté en vue de plateforme. Il y a un joueur qui est plus vers l'arrière et l'autre plus vers l'avant de l'écran. On peut faire justement donner des coups de poing, faire des spin kicks à la Ryu pour faire mal à l'autre joueur. Mais s'il tombe en arrière, tout ce qui arrive, c'est qu'il tombe en arrière de l'écran. Il revient en sautant puis en roulant, puis il est de retour. Donc tout ce qui est important, c'est quand on arrive à la fin du parcours, d'être celui qui est en avant. Fait que c'est de bien timer nos attaques, notre violence envers l'autre joueur pour traverser la ligne avant lui.
Hey, je te jure que si les Olympiques étaient comme ça, j'écouterais ça bien plus.
Mais c'est vrai, la folie, là, tout va vite, la musique est intense, puis tu tackles la haie, puis en fait, même si tu fais juste rentrer dedans, tu fais juste comme être blessé un peu, puis tu continues, puis c'est tout, là. Mais tu tackles la haie, tu rentres un coup d'épaule, t'arraches le bout, tu le pitches, mais là, l'autre, il peut sauter puis faire un spin kick en même temps pour éviter d'être blessé. Fait que c'est vraiment comme un jeu de fighting en courant. C'est l'épreuve. D'ailleurs, on peut jouer à 4 joueurs, j'avais pas mentionné, mais on peut jouer à 4 joueurs au jeu, chacun choisit une faction, puis il n'y a jamais d'épreuves qui sont à plus que 1 contre 1. Donc, okay. On peut jouer juste avec 2 manettes, puis on peut juste cool, échanger les manettes pour pouvoir jouer à 4. Ouais, ça donne un beau jeu de party à jouer à 4. Parce qu'il y a justement 3 des épreuves qui sont 1 contre 1, et les autres sont individuelles anyway, fait que ça n'a pas d'impact. Fait qu'après le 400 mètres haies, on a la natation, encore une fois. La natation, quoi de plus innocent? Eh bien, ça se trouve être dans l'espèce de réseau d'aqueduc de la ville. On nage en fait vers l'écran. On voit une partie qui est sous l'eau. En fait, la moitié de l'écran est sous l'eau, puis l'autre partie est en haut. Et on doit noyer notre adversaire.
Ben oui. Hein.
Voilà. Fait qu'on peut soit nager à la surface à gauche ou à droite, puis on est libre de se promener quand on est en dessous. Donc, quand un joueur est dans une des deux allées, on peut sauter pour atterrir sur sa tête, puis essayer de le noyer. Fait que là, lui, tout ce qu'il a comme réaction, c'est qu'il peut essayer de se sauver pour se pousser sous l'eau. Et quand on est sous l'eau, ben évidemment, on peut se donner des coups de poing jusqu'à temps que notre meter d'air tombe vide. Puis ça fait 10 minutes de vie plus rapidement. Puis là, même si on est noyé, en fait, notre personnage se réveille tout en panique avec les yeux comme exorbités. Puis essaie de remonter à la surface. Fait que là, c'est à l'autre joueur d'essayer de nous bloquer l'accès pour remonter. Bref, ça devient une espèce de tug of war sadique.
Ouais, quand même.
Dans l'eau. Mais c'est vraiment hyper drôle, là. C'est vraiment super drôle, la réaction des bonhommes qui se font sauter sur la tête puis qui se noient. Tu sais, on rit tout le temps de quelqu'un qui se noie. C'est bien connu. Ensuite, on a mon jeu préféré, mon épreuve préférée, le rooftop jumping,
ben oui.
Qui est du saut à la perche, mais sur des toits de bâtiments. C'est un parcours qui est prédéterminé, c'est toujours le même, peu importe combien de fois qu'on joue, où on a une série de toits, et entre chacun des toits, soit que c'est le vide, ou que c'est une corde raide. Donc, d'un toit à l'autre, on a l'option de prendre une perche, pour faire du saut à la perche entre les toits, ou de prendre un unicycle pour traverser. Sauf que ça devient beaucoup, beaucoup un jeu de mémorisation, ce qui est un petit peu n'importe quoi quand c'est la première fois qu'on joue, parce qu'il n'y a pas toujours juste avant l'article que tu as besoin, fait qu'il faut que tu le prennes au bon temps, puis il faut que tu fasses attention à tes sauts. Mais la mécanique de saut demande quand même d'être assez précis, puis fait que ça devient un jeu entre la précision de ton saut à perche et ta mémorisation du parcours. Mais c'est tellement ridicule, là, comme tout le reste du jeu. Si on tombe dans le vide, on fait juste sauter dans l'écran, on revient du néant, puis on réapparaît. On a le droit de tomber X fois, tout simplement, puis on doit traverser le parcours. La description ne le fait pas paraître comme le plus fun de la gang, mais mon Dieu que j'ai eu du plaisir à jouer à ce parcours-là. Ensuite, on a le hammer throw, le lancer du marteau, qui est vraiment le maillon faible du jeu. Parce que c'est juste du button mashing. Dans le fond, c'est un parcours de golf en lancer du marteau. Donc, on doit se rendre jusqu'au trou. Tout simplement, on va arracher le piton pour faire monter le meter, puis on pèse sur l'autre piton pour qu'il lance. Il y a une façon un petit peu d'éviter la douleur de cette épreuve. J'y arrive. Et finalement, le dernier jeu, c'est le Fighting Scene, qui est une espèce de petit jeu de combat style lutte qui fait un petit peu penser justement les contrôles à la Double Dragon. Mais toutes les prises... On peut donner des coups de poing, coups de pied, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup des prises au corps à corps. Puis c'est pas le jeu le plus intéressant, mais il est bien exécuté. Les animations sont drôles parce qu'on choisit évidemment la prise qu'on fait quand on gagne le grapple. Donc ça met de la variété, puis... C'est intéressant, mais définitivement, j'aurais pas mis ça comme dernière épreuve, considérant à quel point les premières sont très, très drôles. Mais en chaque épreuve, justement, on peut acheter des upgrades. Ce qui est un peu weird, par contre, c'est que les upgrades, on se les achète avec les médailles qu'on obtient. Donc, on a une espèce d'effet de capitalisme, de monopoly, de risque, là, c'est-à-dire plus tu gagnes, puis plus tu perds. Parce que tu peux acheter, si tu as assez de médailles quand tu arrives au Hammer Golf, c'est pas compliqué. Là. T'achètes le Rocket Hammer qui remplit ton gauge au maximum automatiquement. Tu fais juste peser le piton pour le lancer. Mais il n'y a juste aucune autre manière d'être proche. Genre, tu pèseras ce piton comme un nesti de défoncer, tu vas obtenir à peu près un quart de ce que la roquette donne. Donc, il faut juste t'assurer d'avoir gagné assez d'épreuves puis t'as rien dépensé d'autre pour te rendre jusque-là. Autre exemple qui me vient en tête, par contre, la natation. Tu peux acheter des petits piranhas. Qui sortent de ton bonhomme puis qui s'en vont mordre l'autre super cheap puis qu'ils le mettent automatiquement en état où est-ce qu'il est évanoui dans l'eau. Là.
Ça, c'est drôle.
Donc, tu le mets vraiment dans la marde, gratis, de façon aléatoire. Fait que ça donne de la variété au jeu. J'aurais fait l'inverse, par exemple. J'aurais donné des power-ups à ceux qui perdent pour créer la compétition. C'est sûr que quand tu joues tout seul puis tu veux juste gagner, fine. Quand tu commences à jouer à plusieurs, ça serait le fun d'avantager ceux qui tirent de la patte. Donc, le jeu devait, comme... En retour à ce qu'on a parlé au sujet des séries des jeux de Kunio Neketsu, ça devait être le premier jeu dans un effort pour finalement avoir une image qui est unifiée pour ces jeux-là. Parce que comme je disais tantôt, on a eu plusieurs jeux là, entre River City Ransom, entre Renegade, World Cup, le jeu de soccer. Ces jeux-là, il n'y avait pas d'unité. On voyait qu'il y avait le même look de personnage pour la plupart, mais il n'y avait pas le brand unifié qu'il y avait au Japon. Qu'on comprenait que c'était les mêmes personnages, la même école, bref, le même univers. À la fin du jeu, à la toute fin du jeu, dans la version américaine, complètement différente de la version japonaise, on voyait une annonce qui disait que bientôt on allait avoir Crash and the Boys Ice Challenge, comme j'avais mentionné justement. Oui, Ike Neketsu Akebu. C'est vraiment plate parce qu'il nous l'avait annoncé là, Puis c'est jamais arrivé. Puis il l'avait même annoncé une autre fois, en fait, dans un poster promotionnel qui était dans la boîte du jeu Combat Tribes au SNES. On voyait Soccer Challenge puis Diamond Challenge, qui devait être aussi sous la bannière de Crash and the Boys. Fait que Kunio serait finalement devenu Crash. On aurait eu ce personnage-là. Mais finalement, c'est tout tombé à l'eau, malheureusement. Voilà. Fait que...
T'as-tu des pattes de divan donné à tes jeux?
Ah, écoute, il y a une référence là-dedans à Scott Pilgrim, fait que je leur donne... Je leur donne 4.
We are sex bomb!
Puis c'est sûr que t'aurais pu les compter si t'avais pas coupé le clip avant.
Ah! C'est tombé une bonne idée!
Ouais, c'est ça.
Ça qui arrive, nous autres. Nos bonnes idées, on les a toutes. Pas quand qu'on prépare le show.
Et... Piu piu piu!
Piu piu, direct à toi, piu piu!
Je me prépare pour asseoir. Piu piu piu!
On va le piu piu bien réchauffé.
Ouais, j'avais pas eu le mémo. Ok. J'avais pas eu le mémo, moi, qu'il fallait qu'on se fasse un cadeau à nous-mêmes. Fait que heureusement que t'as fait un cadeau pour nous deux.
Parce tu fais un cadeau à nos auditeurs.
Ah, sûrement. Sûrement. Fait que quand je me suis mis à me demander de quoi j'allais parler, là, vu que l'épisode c'était celui qui s'approchait de Noël, ben, je me suis dit, bon, je me sens pas encore investi de l'esprit des fêtes cette année. Je me dis, ben, qu'est-ce qu'on fait pour s'investir de l'esprit des fêtes?
On écoute Die Hard.
On écoute un film de Noël, donc Die Hard aurait pu fonctionner.
Yes!
J'avais vu, je pense, cette semaine sur un meme. Il y a deux types de personnes, là, ceux qui pensent que Die Hard, c'est un film de Noël, puis je sais pas trop.
Puis ceux qui ont tort.
Ceux qui ont tort, je sais pas.
Ça me semble être la seule réponse.
Voilà, fait que je me suis dit, ben, je vais écouter un film de Noël. Fait que là, peut-être que je pourrais écouter quelque chose d'un peu rétro, tu sais, pour essayer de rester un peu dans la thématique de Divan Quest, puis de notre amour du rétro. Je me suis dit, je ne peux quand même pas parler de Christmas Vacation là, ou de Home Alone. Il y a des limites quand même. T'sais. Fait que, je me suis dit, ben, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais chez nous une maudite grosse boîte en plastique mou blanc.
Les grosses cassettes.
Que mon frère avait gagné à l'école primaire. Puis dans cette grosse boîte blanche molle-là, on avait une VHS hein, avec un film de Noël que même si on l'avait chez nous, on ne l'a pas écouté si souvent que ça. Et je parle ici d'un petit chef-d'œuvre qui fête son 20e anniversaire cette année.
Oh.
Un film de 96.
Oh.
Qui s'appelle La course aux jouets.
Yay!
Jingle all the way pour les anglophones qui nous écoutent.
On va payer hommage pas mal à Arnold. Hein?
Ben oui, hein, fait qu'on met en vedette Arnold et Sinbad.
Fuck, pour vrai?
Ben oui.
Ah oui, c'est vrai, ben oui.
Qui est le deuxième personnage, ben, l'autre secondaire, qui court après, c'est là. Ça. L'autre qui court. Fait que ben, j'ai commencé à regretter mon choix quand je me suis rendu compte que sur Rotten Tomatoes, on donnait genre 17%. Au film. Mais bon, en même temps, je sais que les films plus vieux, ils sont tout le temps un peu comme tankés sur Rotten Tomatoes. C'est tant pire que la réalité.
Ouais, parce que c'est juste des reviews en rétrospective, parce qu'ils n'ont pas accès aux reviews qui ont toutes été publiées à l'époque. Je sais pas que ça aurait été
dans
mieux.
Dans le
là,
TV Hebdo. Mais...
dans le TV Hebdo, juste avant les cheats de jeu à la fin.
C'est
là.
Ça.
Yes!
Je sais pas, moi, on est abonné pendant un bout, mais pendant un bout de temps, mon père achetait le Journal de Montréal du samedi parce qu'il y avait le petit feuillet dans le milieu avec l'horaire de la semaine de...
Oui, c'est... on est vraiment plongé dans l'univers qu'on était quand que...
Tu sais, il y a eu l'époque après ça du VCR+, où tu avais un code pour enregistrer une émission, tu sais, je l'ai pitonné dans ton vidéo.
J'ai jamais eu ça. Ouais.
Ah, moi, j'en ai eu un, c'était... Écoute, le monde avait des DVD, puis moi, je venais d'avoir un vidéo avec un VCR+, dessus, là, tu rentrais le code, puis ça programmait tout seul. Hey, hein?
Hey, là, fait que tout le monde est bien baigné dans l'esprit des années 90, là. Oui.
Okay. Ou on lâchait le pod.
Attends,
minute,
check. La Wildcat existe encore.
Voilà. C'est une pub de Du Maurier, quelque chose.
Attends, minute. Ah, ben, j'ai ça. Do what you want, cause a pirate is
free. You are a pirate. Ben oui, parce qu'enregistrer une émission sur une VHS, c'était piraté.
J'accepte.
Bref, le film a quand même un 5.5 sur IMDb hein, quand on regarde. Fait que c'est quand même un peu moins épeurant de cette façon-là.
Ça vaut cher la nostalgie sur IMDb.
Oui. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers, je vous donne ma traduction rapide peut-être du synopsis qu'on trouve sur IMDb justement. Ça dit « Un père promet à son fils une figurine de Turboman pour Noël, mais tous les magasins sont en rupture de stock et il doit parcourir la ville entière et compétitionner avec tout le monde pour en trouver une. »
J'espérais que tu nous avais juste planté la traduction, le synopsis dans Google Translate, t'as juste lu ça direct.
Ça aurait été bon. Hein? Encore une bonne idée qu'on a eue au mauvais moment. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, le film, j'ai décidé de vous en faire un résumé avec mes commentaires en cours de route et peut-être quelques petits extraits audio. Qui sait, hein? Ça me ressemblerait si peu. Donc, La course aux jouets, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire de Howard Langston. Je le prononce à la française. J'ai décidé d'écouter le film en version française. Tant qu'à être nostalgique.
Pourquoi t'as pas écouté ta VHS?
Ben, C'est peut-être mon frère qui l'a, je sais pas, j'ai pas demandé s'il l'avait encore. Donc, Howard, joué par Arnold, son fils Jamie, joué par le si talentueux Jake Lloyd, que ceux qui ne replacent pas... a joué plus tard Anakin. J'étais comme, voyons, c'est qui? Oh, fuck, c'est Anakin! Et sa femme, Liz.
That's it.
Ouais, Liz.
Elle a-tu des bigoudis et des
tout le monde a son nom en anglais. Tout le monde a un nom anglophone, sauf Liz.
Ben là, c'est Liz.
Ça devait être Liz. C'était Liz, mais genre, ils ont décidé que c'était Liz. C'est drôle pareil.
Es-tu doublé par Pierre Trépitaille?
c'est le doublage français, fait que non. Oh. Mais ça aurait été très drôle. Donc, ça débute sur un des nombreux clichés du film, pendant que le kid regarde son émission favorite, l'émission Turbo Man. L'émission est clairement un rip-off direct des Mighty Morphin Power Rangers, là, à ne pas confondre avec les Mighty Muffin Pounder Rangers. cette parodie porno faite par la même gang qui nous ont donné les 10 Inch Mutant Ninja Turtles. Là. Pour ceux qui n'auraient pas vu la trame, je fais comme un petite parenthèse, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a un trailer des Mighty Muffin Pounder Rangers.
C'est safe for work?
Alpha, Rita is coming. Recruit a horny group of sexy multicultural college co-eds that know karate.
C'est de toute beauté.
Genre, voilà ton concept en vrac. Ah ouais, ça nous prend des co-eds chaudes. Go!
Qui savent le karaté. Avec des costumes cheap et des casses, des full face.
Ouais, c'est pas trop dur à parodier. Hein. C'est déjà un petit peu une parodie de soi-même comme show.
Bref.
Course aux jouets.
Course aux jouets aussi est une parodie cheap. Donc, avec Turboman, qui est clairement une parodie directe des Power Rangers, c'est les mêmes décors en carton que notre émission qu'on connaissait à l'époque. Fait qu'on a droit à un autre cliché aussi au moment où est-ce que Liz éteint la télé.
Mais quand est-ce qu'il rentre, papa? Il sera sûrement pas là pour mon passage de ceinture. Il est jamais là quand il faut.
Il sera là, tu peux en être sûr. Il a probablement beaucoup de travail.
Clairement, Liz, il répond genre en deux tops. Il va être là, Steve, comme toi, kid.
Mais non, papa était pas en train de faire son party de Noël. Il était en train de travailler, brassait des grosses affaires. Donc, il part en retard pour la remise de ceinture de karaté de son fils.
Il joue un homme d'affaires là-dedans, Arnold?
Genre.
Crédible.
Mais il a l'air de vendre genre des affaires de sport. Là. Il est avec le polo qu'il porte, là, ça doit être... le chandail n'était pas de votre goût, vous êtes mon meilleur client. Anyway.
Oui.
Fait qu'il part en retard, puis pendant ce temps-là, ben, on voit la compétition où les parents sont testés dans les estrades, puis bon, il y a le passage de ceinture. Puis là, on découvre Ted. Ted qui est le voisin divorcé. Ted, le voisin divorcé qui a un coffre à outils.
Je me demandais si tu pouvais jeter un coup d'œil dans mon garage. Je crois qu'il y a un problème d'électricité. Je pense que tu es le seul à pouvoir le régler.
Bien sûr, j'ai l'outil qu'il faut.
Ben non!
Eh oui!
Ben non!
Eh oui, fait que Ted, le voisin divorcé, puis les autres voisines qui...
Qui va se lubrifier la clé Allen. C'est tout. C'est à ton agote.
La clé Ted. Donc, papa, manque la cérémonie. Hein, puis on a droit à un autre cliché. Parce qu'il arrive chez lui après avoir manqué la cérémonie. Puis toutes les maisons, genre, sont méga trop éclairées, décorées, sauf la sienne. Oh. Fait qu'il tente de se faire pardonner, il va voir son fils, puis tu sais, il demande à son fils qu'est-ce que tu veux pour Noël pour me faire pardonner d'avoir manqué mon affaire. Petite parenthèse, là, je suis très jaloux de la chambre du kid. Où est-ce qu'il y a un gros stencil sur le mur de Captain America, un drap avec aussi des personnages. Mais tu sais, à l'époque, des BD de Marvel. Là,
ouais, c'est ça. C'était Captain America en
96.
Calique.
Non, c'est ça. Fait que je suis comme, wow, nice. Mais bon. Tout ça pour dire qu'il demande au kid, puis le kid, il répond avec la voix que... Puis l'énergie de Matt quand il nous parle de VR.
Je veux le Turboman en taille maxi, avec les jambes et les bras qui bougent, et le boomerang qui tue, et le pack créateur double T, et l'activateur de voix digitalisée qui dit 5 phrases différentes. Et surtout, oui, Turboman arrive! Accessoires vendus séparément, et puis non inclus.
Ah, c'est bon, par exemple.
Quand même. Fait que, ben oui, hein, fait que papa, le matin du 24 décembre, part à la recherche du jouet.
C'est un génie de colis.
Que maman Liz, Il avait demandé d'acheter genre plusieurs mois auparavant.
Bien sûr.
Hein, puis comme de fait, il n'y en a plus nulle part. Les gens sont fous. Tentent encore d'en trouver un 24 décembre au matin. Il y a des line-up devant un magasin de jouets. Semblerait que c'est basé sur la folie qui a suivi la sortie des Baby Wuchou dans les années 80.
Ah, OK.
C'est à peu près pareil à
j'aurais
ça.
J'aurais pensé Tickle Me Elmo ou quelque chose comme ça.
Tickle Me Elmo, je pense que c'est peut-être plus tard que
ouais,
ça.
Ouais, probablement, ouais. Ah, c'était pas la folie de la NES classique?
Ben oui, je l'avais justement mis dans mes notes. La seule différence, c'est pas que la compagnie n'avait pas fait assez dans ce cas-là par choix. Donc, c'est là qu'on découvre notre antagoniste de notre film, ce papa divorcé, alcoolique, en colère et adepte des théories du complot, oui, joué par Sinbad.
Tu sais que c'est un complot, ce truc? Un complot? Mais tu débarques? Tu regardes jamais la télé? Nous sommes tous manipulés par les tout-puissants cartels du jouet.
Tu plaisantes.
Il y a des gros bonnets qui font suer sang et eau à des pauvres travailleurs comme vous et moi. Ils dépensent des millions de dollars en films de pub et ils envoient des messages subliminaux qui pénètrent dans les subconscients des gosses. Et je sais de quoi je parle, j'ai pris des cours du soir, j'ai fait de la psychologie, je suis au point là-dessus, je connais les mécanismes. Tout ce truc, ça sert à ce que le petit fasse une grosse déprime et il en veut à son père qui travaille chaque jour que le bon Dieu fait à distribuer des lettres pour payer une pension alimentaire à une femme que tous les mecs de la poste peuvent se taper, mais surtout pas à moi! Et quand on a acheté ce jouet, ça pète et va essayer de réparer ses petites saloperies en plastique. Moi, mon rêve, un jour, c'est d'aller voir ces mecs et d'en attraper un et de l'étrangler jusqu'à ce que je sente que sa tête explose!
J'avais nommé le drop Angry Divorced Dad. Ça ressemble un peu à ça.
Je suis en train de remettre en question mon existence là, avec ouais, son plaidoyer.
Quand même. Hein. Puis après ça, bon, ben, il rentre dans le magasin. Comme de fait, il n'y a plus de maudits jouets. Il y aurait juste le sidekick, le booster, qui était un gros chien rose en peluche. Là.
Bien sûr.
Mais oui, pour être sûr qu'il soit vraiment, vraiment très laid. Puis on a droit à la réaction très, très naturelle loin des commis quand Arnold leur demande hey, on est Turboman. C'était plus Stallone, mon affaire, en tout cas.
Mais ouais, c'est...
Ça,
ouais.
Je vous dirais que ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on a déjà entendu. Là. Ouais, en fait, vous allez voir ce que je veux dire.
Michael,
qu'est-ce que j'ai dit?
Ces messieurs disent qu'ils veulent acheter un Turboman.
Un robot Turboman, oui.
Turboman!
Turboman!
Non, mais écoutez ça! Ces messieurs voudraient un Turboman!
Qu'est-ce que ça a de marrant?
Non mais vous n'êtes pas bien. Turboman est le jouet qui a crevé tous les scores de vente depuis un siècle.
Sacré.
Ouais. On pourrait remixer ça, faire une tournée de Noël un peu comme Tidus. Là.
Ouais, ouais. Non, mais par respect pour tout le monde, on le fera pas.
Non, c'est ça. Je sais pas en anglais si c'est moins affreux.
Ah, probablement pas.
Probablement pas. Hein.
La seule réaction qu'Arnold a eu à ce moment-là, c'était...
Do it! Do it!
Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill
Do
me!
It now! Bref, commence la vraie course aux jouets hein, par la suite où tous les coups sont permis. On se plaque dans les rangées des magasins, on se fait planter en faisant marcher sur une auto téléguidée. On se bat pour avoir droit à une petite balle qui pourrait peut-être nous donner le droit d'acheter un Turboman dans un magasin qui donne lieu à des beaux gags douteux aussi là, parce que la balle bon, rebondit à peu près le trois quarts de l'hostie de centre d'achat puis finit par s'avancer dans les mains d'une petite fille.
Bien sûr. Oh, ça...
Regarde ce que j'ai pour toi. Une très jolie boule.
Hey!
Mon drop s'appelle Creepy Arnold.
C'est encore moins creepy que le coffre à outils.
Ouais. Parce que le coffre à outils parle pas d'une petite fille de genre 7 ans, avec une coupe champignon, dans un bac de balles. Là,
Karen?
Ouais, c'est la jeune Karen. Ah, ça fitterait avec l'âge.
Karen Origins.
Karen Origins Story. on comprend maintenant pourquoi elle vit toute seule. Fait que ben rien fonctionne, hein. Pauvre Arnold, il finit par se retourner vers un genre de marché noir avec un Père Noël un peu plus creepy même qu'Arnold. Puis lui aussi, tu sais, en tout cas, ouais. Arnold parlait de ses boules, là, le Père Noël aussi, il fait des petites blagues douteuses.
Hé, hey. Psst, hey. Approche. Tu veux un Turboman pour Noël?
Tu crois peut-être que je vais venir dans tes bras?
Hé, hey. Rassure-toi, je préfère les blondes. Je suis drôle, hein?
Je suis drôle, hein?
Je suis drôle, hein? Ouais. Puis là, je parle pas de son acolyte, là, qui est un dwarf gangsta, là. Ouais. Fait que, ben, il suit, hein, puis il se retrouve dans un genre de gros marché noir black market de Père Noël, là, qui revendent ouais. des jouets...
C'est la première fois que je me rappelle de ce film.
Qui revendent des jouets populaires, là, qui en fait sont pétés, puis sont dans d'autres langues en plus, puis sont des prix ridicules. Bref, Arnold n'est pas content, hein, puis ça dégénère en bataille générale. Là, bataille avec incluant... un Santa qui fait 3-4 flips parce qu'Arnold a tiré sur sa barbe puis il l'a fait rebondir en élastique. Là.
Bien sûr.
Le Père Noël Ninja avec ses nunchucks en canne de Noël. Et le Père Noël de 7 pieds 300 livres joué par nul autre que M. Paul White, aussi connu sous le nom de The Big Show.
Oh!
Avec en bonus la voix traduite de 1996, la plus creepy que j'ai entendue.
Je vais te traduire en poudre, t'es prêt?
T'es prêt? T'es prêt?
Mais c'était quand même Big Show.
C'était ta seule raison de faire tout ce segment-là, c'était de pouvoir parler de Big Show.
Exact. J'ai un problème.
Je vais te traduire en poudre, t'es prêt?
Puis encore une autre réplique encore plus dégueu après où est-ce qu'il mange un coup, là, puis. Calice. Ouais. Fait que là, ben Arnold se retrouve dans un coin perdu de la ville, là, parce qu'il y a une descente de police aussi, puis il sauve en volant un petit jouet de police, puis en le montrant bien vite. Là.
Une badge.
Une badge, oui, bien c'est sûr. Ça. Un badge en plastique. Fait qu'il se retrouve dans un petit coin perdu en panne d'essence, hein, fait que c'est sûr, t'as pas pensé à mettre du gaz. Toujours pas de jouet. Rappelle chez eux pour essayer de parler, parce qu'il était sûr d'aller à la parade du Père Noël. Puis il se fait faire la morale par Anakin.
Parce que quand quelqu'un fait une promesse, il faut toujours la respecter. Tu sais, Turboman, il dit ça tout le temps. Respecte toutes tes promesses si tu veux que tes amis te respectent.
Est-ce que Chris fait du chantage émotionnel?
Est-ce-t-il? Mais je le comprends un peu, là, parce que son père, c'est vraiment une marde. Puis, ben, qu'est-ce que tu veux? Hein? Il fait qu'il est dans le coin perdu dans un diner, puis Sinbad est là. Hein? Puis,
ils
partent en course avec Arnie pour essayer de gagner un Turboman à la radio. Puis là, c'est là qu'on voit que le film se passe avant 2001, là, parce qu'on a droit à un gag de bombe.
Ah, ouais. Ça passait encore.
Ça passait encore. Puis là, on a un autre cliché. Hein. Il y a une bombe qui pète dans la face d'une gang de police, puis personne n'a rien. On les revoit toutes plus tard dans le film.
Ah, ils ont pas arrêté Sinbad on the spot. C'est pas...
Je pense qu'ils l'ont arrêté, mais que c'est sauvé. Ah non, ils l'ont sauvé parce qu'il y avait une bombe. T'sais.
Ben oui, c'est sûr. C'est profilage.
C'est ça. Ben oui. Bref. Fait qu'Arnold le retourne à son auto hein, pour retourner chez eux, ben même s'il n'y a plus de gaz, puis retrouver son char genre sur quatre blocs, plus de porte avec des graffitis marqués Merry Christmas dessus. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, si le film commence un peu cave, là on voit une montée du ridicule à peu près à partir de ce point-là. Ben en fait, le Santa Black Market Underground, là, c'est pas mal le début là, du n'importe quoi. Là. Le Black Market, la bombe, le char, mais ça devient encore plus ridicule par la suite. Parce qu'Arnold fait tower son char, s'en retourne chez eux. Arrive chez eux, met quasiment le feu à la maison de son voisin en voulant aller voler le Turboman qu'il donnait à son kid, puis en se rendant compte, oh, je peux pas faire ça. Spogne avec sa femme, puis la femme part avec le voisin puis leurs deux kids pour aller à la parade du Père Noël, pendant qu'Arnold vire une brosse avec un renne.
Bah oui.
Parce que le voisin avait un renne.
Ah oui, oui. J'ai.
Parenthèse sur les gens qui mettent des choses sur IMDb. Je peux comprendre, des fois, il y a des goofs puis des erreurs sur IMDb, c'est correct, c'est drôle. Mais faire référence au fait que le reine a des bois d'été pendant le film, là, c'est pas de la faute des producteurs. C'était juste ça. Je voulais le dire. Come on, c'est pas un goof. Là. C'était quand même pas pour raser le duvet sur les cornes du reine. Là.
Bon, merci, IMDb. Merci, Internet, de votre pertinence.
Arnold vire une brosse avec un renne. Ouais, c'est ça. Ben, il fait boire de la bière, puis le renne, il rote, parce que c'est drôle, hein, il rote. C'est comme faire une joke de pète dans un podcast. Mais là, Arnold vit son épiphanie de film de Noël, parce que ça en prend une, épiphanie de film de Noël dans un film de Noël, et part rejoindre sa famille. Bon, il se fait rendu là, il se fait prendre par pour le doute qu'il devait remplacer Turboman dans Parade.
Gardons ça.
Puis pendant qu'il se fait habiller en Turboman sans trop comprendre ce qui se passe, ben Creepy Ted, là, le voisin, là, il agresse sexuellement Lise dans le char. Là. Pratiquement. Là.
Il sort la clé à molette.
Ouais, il essaye, puis là, ben il pitch du eggnog d'en face, puis c'est le nez de son croche. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans son eggnog, mais en tout cas.
Ça saoule vite. Hein?
Ah ouais, ça saoule vite.
Ah, il est peut-être intolérant au lactose.
Peut-être. Personnellement, là, moi, j'essaierais pas de violer la femme d'Arnold. Surtout pas celui de 96, il était encore pas mal en shape. Là.
Ouais.
Je prendrais pas de chance. Mais bon, je m'appelle pas Ted. Hein.
J'ai
peut-être pas le bon outil. Fait qu'on arrive enfin à la scène finale où Arnold, déguisé en Turboman, doit donner un jouet édition limitée à un kid dans la foule. Hein, il choisit le sien, c'est sûr. Puis là, on a droit à un super cliché. Tu portes un genre de casque de hockey là, avec une demi-visière comme jaune, là, puis personne te reconnaît. Même pas ton kid qui est à 6 pouces de ta face. Nope. Non.
Yeah.
La magie.
That's it.
Fait que là, ben, Sinbad, hein, il s'est sauvé de la police, là. Au lieu de donner un nom
dans le film. C'est ça qui a dû. Ouais. C'est tombé raciste, ton.
Ben, si tu veux, je te dis, c'est pas moi qui l'ai gris. Il vole le costume du méchant, là, le méchant Démentor, qui est le méchant dans Turboman. En fait, c'est très drôle, c'est que genre. Tu sais, comme tu vois, comme le mettons l'acteur en train de fumer une clope, puis il vient en Démentor, qui se fait comme agripper par une guirlande de Noël rouge. Bien sûr. Bref, il vole le costume pour pouvoir aller voler le jouet sur le char allégorique de Turboman. Tu sais, devant une foule de plusieurs centaines de personnes dans une rue. Juste en arrière aussi du char allégorique de la police, là. Avec des trampolines, puis des polices qui font des flips de trampolines. J'ai pas compris, mais en tout cas.
Je pense. Je peux pas t'aider.
Moi, j'ai une Saint-Yves. Moi, j'ai une Saint-Yves. Mes parades du Père Noël, quand j'étais petit, c'était big là, dans le temps parce qu'ils donnaient des hot dogs aux kids du bord de la rue, tu sais. Puis ma blonde n'en revient pas encore de ça. Dit, donnez des hot dogs!
J'étais un peu jaloux.
Ces plates font plus ça maintenant. Mais il y avait pas des polices qui faisaient des flips ou des trampolines.
Ouais, mais il y a des hot dogs.
Bonus. Anyway, fait que. Belle grosse bataille cheap là, avec Arnold qui tabasse des mascottes qui sont probablement des kids déguisés en petit nain, whatever. Là, c'est peut-être du fake combat, mais là, vu que l'autre qui est un peu fin, il est bas pour vrai. Là.
Sacrifice.
Puis l'autre mascotte, là, le gros chien rose Booster là, qui tombe à terre puis qui se fait tabasser par des vrais kids de la foule parce que personne l'aime. Genre, les kids, the fuck?
C'est tellement cheap comme gag.
Puis on a... bon, en fait... petite poursuite entre Sinbad et Anakin avec des belles répliques. Là. Puis là, j'en ai identifié trois. Il faut porter attention parce qu'avec la musique très, très dramatique, on les entend pas trop bien. Mais on voit ici la hauteur du niveau du script, surtout la traduction.
Tire-toi à la droite! Oh! Ah, il manquait plus que les pop-corn! Je t'échange ce robot contre une collection de tables!
Ah, parce qu'il est un facteur. Ça fait mal, hein?
C'est triste.
Fait que tire-toi la boîte, manquait plus que le popcorn. Puis... C'est ça, hein?
Je t'accours de commentaires.
Fait que là, Anakin, il sauve du méchant. Là. Il fait quoi pour se sauver du méchant? Cliché. Un coup de pied dans les bases.
Bien sûr.
Fait que ça finit avec Anakin sur un sapin de Noël en métal sur le toit d'immeuble là, qui se sauve du méchant, puis qui est sur le bord de tomber, puis avec le méchant démentor là, qui est pareil comme dans la scène du début. Là. Il fait la même scène finalement qu'au début dans les Mighty Muffin Pounders.
dans le show, là.
Dans le show. Où est-ce que là, il y a le kid sur le bord de tomber, puis des menteurs, puis tout. Fait que, ben, Anakin, il tombe. Puis qu'est-ce qu'il fait, Turboman? Ben, il utilise son jetpack.
Ah oui. Parce que, tu sais, le costume de la mascotte, il y a un jetpack.
Ouais. Qui vole, puis tout. Avec un beau blue screen mal chié, là. Mais, ouais. Come on! Fait que ben oui, il sort le jetpack, puis c'est ça. Fait que il va chercher le kid, il le dépose à côté de sa mère, puis là c'est là qu'Arnold enlève son casque. Tout le monde est surpris, hein, y compris notre championne, Lise, qui comme elle aussi, elle se pousse de son mari, reconnaît pas son mari, tu sais, parce qu'il y a un casque de hockey sur la tête. Là. Fait que ouais. Puis on a le droit à une belle fin de film de Noël, parce qu'Anakin, il donne à Sinbad le jouet de Turboman, Special Edition, Turbo Max 2000.
Non.
Tu sais. Le plus heureux, ce sera mon fils. Je regrette qu'on se soit énervé tout à l'heure sur le sapin.
Oh, c'était drôle!
Mais Jimmy, je croyais que tu rêvais de ce jouet depuis très longtemps.
Mais maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai le vrai Turboman, c'est encore mieux!
C'est mon mari!
Avec Lise. C'est mon mari!
Oh, en stéréo!
Fait que, ben, c'est ça. En fait, je m'en allais faire un review du film. Non, pas tant que ça. Là. C'est quand même drôle. Là. Genre, il y a quand même quelque chose de drôle à regarder un vieux film qui était déjà pas très bon à l'époque. Personnellement, j'aime quand même plus ça que de regarder un film que je pensais qu'il était bon puis me rendre compte qu'il était vraiment pas.
C'est ça, tes attentes étaient quand même assez réduites.
Ah, il était dégueulasse, mes attentes. J'étais comme, oh, ça va être calme. Puis, tu sais, quelque part, tu sais. D'une certaine façon, le côté ridicule du film, le côté cliché abusif, c'était assez drôle.
Ben, puis c'est assumé.
Je sais pas à quel point.
Ben, tu sais, c'est pas quand même comme des Santa Ninja dans un warehouse.
Ok, t'as raison.
Bon, tu sais, je pense qu'ils savent.
Mais ils savent, mais je pense quand même qu'ils essaient de faire un film de Noël comme film de Noël. Tu sais, c'est pas une parodie.
Ah oui, non.
Mais c'est quasiment une parodie, en fait. Tu sais, fait que si tu le regardes avec ce regard-là, que c'est pratiquement une parodie d'un film de Noël, ça devient encore plus drôle, là. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre cinématographique? Ben non, quand même pas.
Ben oui,
non. Non. Mais bon, je vais quand même donner un deux pattes de divan, oui, en canne de bonbons. Hein? Mm. Une patte pour la performance ridicule d'Arnold, parce que dans le
ce qu'on appelle une performance d'Arnold.
Ouais, mais quand même. Dans la dernière réplique, là, où est-ce qu'il dit à son fils, mais tu le voulais tellement le jouer, sa face, genre, c'est comme. Je peux pas croire que personne qui a dit non, on reprend cette scène-là, là. T'as l'air de faire un anévrisme, en tout cas. Fait que je donne quand même une patte de divan pour ça, puis l'autre patte de divan à cause de Big Show. Fait que je donne un défi, dans le fond, à ceux qui nous écoutent. Hein? Vous aussi, tapez-vous un film de Noël pas très hot, là, un peu ridicule, puis laissez-nous en commentaire sur l'épisode votre review du film. Ça me semble que ça serait drôle, tu sais, il n'y a pas juste moi qui va souffrir pour le plaisir. Fait que c'est ça Noël, hein, c'est le partage.
C'est voilà, il n'y a pas juste Ciné-Cadeau qui joue comme shit de Noël pendant le temps des fêtes. Il y a des mauvaises affaires aussi.
Oh que oui. Fait que vous nous laisserez vos commentaires sur vos mauvais films de Noël, puis je finis avec ça.
Je vais te traduire en poudre, t'es prêt?
Good show!
Oui, alors pour la période estivale, non pas m'entendre, juste pour vous dire que on prend relâche.
Ben oui.
Mais ne vous emportez pas, ne sautez pas directement sur votre compte courriel pour nous envoyer des insultes, malgré que ce serait déjà du feedback pour n'ayez pas ça.
Très content.
Non, c'est-à-dire qu'après cet épisode, qui est donc le dernier épisode régulier de Divan Quest, évidemment pour 2016, mais on prend relâche pour le mois de janvier. On vous laisse pas les mains vides. À chaque semaine, on va quand même vous donner des causeuses. Donc, on va être de retour au début du mois de février avec un épisode régulier. Et d'ici à là, que des causeuses, ce qui devrait vous enligner 6 causeuses en ligne. Si vous êtes chanceux, il y en a peut-être qu'on va peut-être chaud un petit peu.
Peut-être.
Parce qu'on va se faire une journée enregistrement de causeuses, incluant notre rétrospective de l'année 2016, qu'on n'a aucune idée que ça va être, puis que ça sera probablement pas si intéressant que ça, mais...
On va s'amuser, quand même.
Voilà.
Puis pour le reste, ben, si vous avez envie, si vous le pouvez, ben, vous pouvez donner un coup de main au podcast en allant au patreon.com/divanquest. Les derniers épisodes, on peut les trouver sur le divanquest.com pour du feedback, du hate mail par rapport au fait qu'on fait des causeuses ou d'autres raisons. Sur Twitter, twitter.com/divanquest. Sur Facebook, au facebook.com/divanquest. Sur courriel à divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com. Dans la playlist de PodQuébec au podquébec.com, sur Balado Québec au baladoquébec.ca. Vous irez cliquer les petites étoiles sur Balado Québec, on aime ça remonter dans leur liste. Puis sur iTunes, c'est certain, allez commenter, cliquer les petites étoiles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux commentaires à iTunes. Ça nous ferait plaisir de le lire, ça nous ferait monter aussi dans les rangs sur iTunes, ça nous rendrait plus visible. Donc, on se revoit bientôt, et d'ici là...
Game on!
Game on!